Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à ouvrir avec moi dans le livre des Nombres. Nombre 21, nous allons lire à partir du verset 4. Ils, c'est-à-dire les enfants d'Israël, partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ou des serpents venimeux. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserva la vie. Amen. Je voudrais vous inviter à faire une deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 14. Il est dit ceci, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Dans ces deux textes que nous venons de lire, nous voyons qu'il s'agit là d'un épisode dans la vie du peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour se rendre dans le pays de la promesse. Et il est arrivé qu'à un certain moment de leur parcours, parce qu'ils étaient en difficulté, eh bien, ils se sont mis à murmurer, à parler contre Dieu et contre son serviteur. Résultat, eh bien, le résultat ne s'est pas fait attendre. Des serpents brûlants, sont arrivés sur le camp et plusieurs ont été mordus et sont morts. Dans le contexte de la deuxième lecture, c'est ici un homme qui s'appelle Nicodème, qui est docteur, enseignant de la loi au milieu du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, qui vient voir Jésus de nuit et qui a un entretien avec lui. Et dans cet entretien, eh bien, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont parlé de la nécessité de la nouvelle naissance. Et Nicodème va, pour comprendre ce que le Seigneur est en train de lui expliquer, il va se dire comment un homme qui est vieux comme moi peut-il à nouveau entrer dans le sein de sa mère et naître. Et Jésus qui lui dira, comment se fait-il que toi qui es docteur en Israël, comment se fait-il que tu ne comprennes pas ces choses? Et pour l'amener à comprendre, il va parler de cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël. C'est un épisode que Nicodème connaît forcément puisqu'il est enseignant. Il parle donc de l'histoire d'Israël, il enseigne les choses de Dieu. Et dans ce contexte, eh bien, le Seigneur va se saisir de cette histoire afin de l'enseigner et de l'instruire en ce qui concerne la nouvelle naissance. En ce qui concerne le premier texte que nous avons lu, nous voyons que donc le contexte de ce texte, c'est un contexte de révolte. Le peuple de Dieu s'est révolté, même s'il n'y a eu que des paroles, mais en réalité, ça traduit un état de cœur qui est en révolte contre Dieu. Et le Seigneur, au travers de ce texte, va donc parler à Nicodème pour l'amener à saisir, à comprendre qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc il y a deux épisodes, si on peut dire comme ça, ou deux étapes plutôt, dans ce qui concerne la nouvelle naissance, c'est que dans ce que le Seigneur lui explique au Jean chapitre 3, il va dire que, verset 3, Jean chapitre 3, verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et deuxième étape, il va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes en ce qui concerne la relation avec Dieu. Mais cet après-midi, en nous entretenant autour de cette parole, nous comprenons que on peut connaître, on peut avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais cela ne garantit pas qu'on est dans le royaume. Vous voyez? On peut avoir une connaissance des choses de Dieu, mais cela ne veut pas dire obligatoirement qu'on est dans le royaume. On peut avoir vu, compris un certain nombre de choses, voir, mais cela ne veut pas dire qu'on est dans le royaume de Dieu. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous y soyons justement. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas, je voudrais vous inviter cet après-midi à faire ce pas de la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce que, quand j'ai parlé du contexte de Nombre 21, c'est pour nous amener à comprendre, je crois que je l'ai souvent dit et puis je vais certainement le répéter, c'est que lorsque dans le jardin d'Éden, l'homme s'est détourné de Dieu, souvent quand on lit cette histoire, on pense que ça s'est passé un petit peu en privé. Vous voyez? Mais la réalité de cette histoire, c'est beaucoup plus que ça. Vous voyez? C'est un véritable acte de rébellion, puisque l'homme a rejeté la parole que Dieu lui a donnée. Il a choisi délibérément même s'il a été trompé, même si la vérité a été dissimulée, le diable c'est le père du mensonge, néanmoins, il appartenait à l'homme de faire le choix de croire en Dieu. Ce qui fait que lorsque cette histoire du Jardin d'Éden s'est passée, il y a plus de témoins que Dieu, le diable et Adam et Ève. Vous voyez? Ça se passe devant tout l'univers spirituel. Tous les êtres spirituels sont témoins de cela. C'est que, vous voyez, quand il y a une offense qui est faite à une personne en privé, bon, on peut le régler en privé. Mais ça, c'est une offense, j'allais dire, c'est une offense publique, une rébellion publique. Donc, il va y avoir deux conséquences. Tous les hommes, sans exception, sont en rébellion contre Dieu. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, j'ai dit, on est dans un contexte où le monde, c'est un monde de rébellion contre Dieu. Que ce soit dans sa façon d'agir, dans sa façon de concevoir les choses, etc., il est toujours en rébellion contre Dieu. Et nous-mêmes, chrétiens, enfants de Dieu, engagés, nous sommes dans un contexte de rébellion contre Dieu. Nous vivons au milieu d'un monde qui est en rébellion contre Dieu. Donc nous pouvons être influencés, être amenés d'une manière insidieuse à être en rébellion contre Dieu. Et le Seigneur explique ici à Nicodème, si je puis dire comme ça, que Nicodème, dans ta situation, tu es en rébellion contre Dieu. Voilà. Ce qui s'est passé dans Nombre 21, eh bien, on voit qu'il y a eu beaucoup de morts. Et ce qui a ramené Dieu de sa colère, c'est quoi? C'est la repentance du peuple qui ont reconnu qu'ils ont parlé contre Dieu, ils se sont rébellés contre Dieu et qu'ils ont imploré le secours de Dieu. Voyez-vous, il n'y a que Dieu qui peut changer le cours de notre vie. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement nous amener à voir. Voilà. Parce qu'on ne peut pas entrer par une porte qu'on n'a pas vue. C'est logique. Hein? Quand vous arrivez devant un magasin, vous cherchez la porte d'entrée. Voilà. À moins que vous ayez des facultés de passer au travers des murs, mais ça, je crains que vous ne soyez pas en mesure de faire ça. Mais c'est pour dire qu'on cherche la porte pour entrer. Or, la Bible nous dit, il n'y a qu'une seule porte. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En ce qui concerne le peuple hébreu dont nous avons lu l'histoire tout à l'heure, eh bien, dans une situation de rébellion contre Dieu, eh bien, la sentence est intervenue immédiatement. Mais lorsque le peuple s'est humilié, a confessé, reconnu la faute, alors Dieu envoie la guérison. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de Dieu. Et du fait que nous sommes privés de Dieu, nous sommes privés de la vie. Et le fait d'être privé de la vie de Dieu, ben, les conséquences se font sentir, se font voir au travers de nous et dans notre environnement, etc. Il n'y a que lorsque un homme et une femme reconnaît qu'il est pécheur et qu'il s'humilie pour demander pardon à Dieu, il n'y a que là que la guérison se fait dans son cœur et dans son âme et que sa vie change. Voulez-vous être guéri? Dans cette histoire, La réponse de Dieu va dire à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le dans un lieu élevé pour que tous ceux qui sont mordus puissent le voir et tous ceux qui regarderont vers le serpent d'airain seront guéris. C'est vrai, John n'est pas là, malheureux. J'aurais bien voulu demander comment on traite ici quand quelqu'un se fait mordre par une vipère, ou etc. Je crois qu'il y a un contrepoison qui est injecté. Le seul contrepoison qui nous est donné par Dieu, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Et c'est ce que le Seigneur va dire à Nicodème, que de même que le serpent a été élevé, mis en hauteur pour que tous les hommes le voient, eh bien, de la même manière, le Fils de Dieu sera élevé. Pour quel objectif ? Afin que tous les hommes puissent voir et reconnaître l'amour de Dieu et être libérés, être délivrés, être guéris. Je voudrais également dire que dans cette histoire, dit ceux qui ont été mordus, ils regarderont vers le serpent et ils seront guéris. Voilà. Le simple fait de regarder apporte la guérison. Et ici, le Seigneur met en relation avec le fait que il dit ceci, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alléluia. Oui. Êtes-vous assuré de la vie éternelle? Avez-vous cette certitude que si la mort physique venait à vous frapper, vous avez la vie éternelle? Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Les premières fois que j'ai lu cela, j'ai mis du temps à comprendre. Hein? Il dit, il vivra quand même il serait mort. Voilà. Avec le temps, on finit par comprendre et avec... l'éclairage que Dieu nous donne, nous comprenons que cette mort physique n'est pas la fin de tout, mais il y a la vie qui continue. Et je voudrais dire ici que c'est une question de vie et de mort. Quand c'est une question de vie et de mort, c'est important. Il y a ce qu'on appelle, dans le langage courant, quand on n'a pas porté assistance à quelqu'un, ça s'appelle la non-assistance à personne en danger et on peut être condamné pour cela. Voyez? Ma responsabilité, la responsabilité de tout prédicateur, comme pasteur, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, c'est d'amener les hommes à passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que loin de Dieu, on est mort. On est dans les ténèbres. Et lorsqu'on a cru au Fils de Dieu, reconnu le sacrifice de Christ comme étant la manifestation de l'amour de Dieu pour nous libérer du pouvoir, de l'autorité, du péché qui est le venin injecté en nous, alors nous sommes libérés de ce poison. Oui, le péché, c'est un venin qui fait des dégâts depuis le début de l'humanité et qui asservit des hommes et des femmes et qui les tient éloignés de Dieu. Le chef d'orchestre du péché, nous le connaissons, c'est Satan. Et dans cette histoire que nous avons lue en ce qui concerne le serpent brûlant, eh bien, le fait ici d'élever le serpent pour que les hommes les Juifs, les Hébreux, les Israélites puissent le voir et être sauvés est associé avec le fait d'avoir la foi. C'est la foi qui sauve. Le fait de regarder, c'est que c'est cette foi de croire que le simple fait de regarder, je suis sauvé. Je ne sais pas si tous ceux qui ont été mordus, ils ont regardé, mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont porté le regard sur ce serpent d'airain ont été guéris. Tous ceux qui, depuis 2000 ans, ont porté les regards sur le sacrifice de Christ ont été libérés du pouvoir du péché. Et il en sera toujours ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il y a également une chose importante que je voudrais souligner ici, c'est que dans Jean chapitre 3, verset 17, il dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes dans ce temps où la parole de Dieu nous dit, le temps de la grâce, ouvert depuis le sacrifice de Christ. Nous savons que nous allons vers la fin. Mais nous sommes encore dans ce temps où Dieu a décidé dans sa souveraineté de faire grâce aux hommes. De ne pas les traiter en proportion à leurs fautes, mais de leur accorder grâce. Mais la grâce ne peut agir et intervenir dans notre vie que dans la mesure où nous l'acceptons, où nous croyons à la grâce de Dieu. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de foi. Si tu crois, et c'est ce qui est dit ici également, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Lorsqu'on a cru, lorsque les Hébreux ont cru, eh bien, le pouvoir du poison sur eux a été annihilé et ils ont été guéris. Lorsque nous croyons au sacrifice de Christ, le sacrifice de Christ nous libère du pouvoir et de l'autorité du péché sur notre vie. Mais non seulement cela, il nous libère également du pouvoir et de l'autorité qu'exerce Satan sur notre vie. Christ à la croix a détruit le pouvoir du péché, mais il a aussi détruit le pouvoir du diable sur notre vie. À partir du moment qu'on croit, alors l'action du sacrifice de Christ nous libère du pouvoir du péché et de l'autorité de l'ennemi. Et il nous donne pouvoir et autorité sur l'ennemi. Nous avons maintenant, dans le nom de Jésus, le pouvoir de faire reculer son ennemi, même s'il venait avec toute son armée. Frères et sœurs et amis, pour ceux qui ont déjà cru au Seigneur, béni soit le Seigneur. Mais il arrive, et malheureusement, il y en a qui se font mordre à nouveau et qui sont à nouveau atteints par le pouvoir du péché qui commence à entraîner. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du fait que nous sommes dans un contexte de rébellion contre Dieu qui influe sur notre vie parce que que ce soit à l'école, sur notre lieu de travail, au magasin, etc. Nous sommes dans un contexte qui rejette Dieu. Donc, forcément, à un moment donné, il y a des influences que lorsque nous ne veillons pas, eh bien, ils interagissent sur notre vie. Si c'est le cas, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se repentir et reconnaître qu'on a péché contre Dieu. Alors la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Ce qu'explique également ici le Seigneur en ce qui concerne Nicodème, et je voulais relever cela, c'est que le fait de croire au sacrifice de Christ est un acte de soumission à Dieu. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai été rebelle dans ma vie contre Dieu. Maintenant, non seulement je crois au sacrifice de Christ, mais je fais acte de soumission à Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il croit en Christ et qu'il est rebelle contre Dieu, on ne peut pas croire en Christ et en même temps être rebelle dans sa vie contre Dieu. Ce n'est pas possible. Les deux choses ne peuvent pas cohabiter et aller ensemble. Donc si vous réalisez que dans votre vie, il y a un espace dans votre vie qui résiste contre la vie de Dieu, eh bien, il n'y a qu'un seul chemin. C'est ouvrir son cœur à Dieu et confesser l'état de son cœur. Il n'y a que cela qui peut nous libérer du pouvoir, du joug et de l'autorité de la puissance du péché sur notre vie. Mais je voudrais ajouter également en ce qui nous concerne, nous qui sommes engagés avec Dieu. Il dit ceci dans ce verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque en lui ait la vie éternelle. » Le sacrifice de Christ, il a déjà été accompli il y a 2000 ans. Il est toujours d'actualité en ce qui concerne son œuvre, la victoire qui en a découlé, etc. Mais je voudrais ajouter en ce qui nous concerne, nous qui sommes enfants de Dieu, engagés dans la vie avec Dieu. Je voudrais vous inviter à faire une lecture dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est le passage de la Sainte Cène. Verset 26. Il dit, car toutes les fois que vous buvez cette coupe et que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. C'est-à-dire que chaque dimanche, pour nous, parce que c'est, mais à l'époque biblique, c'était toutes les fois qu'ils se rencontraient, ils avaient l'occasion de prendre le repas du Seigneur. Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est le dimanche. C'est-à-dire que toutes les fois que nous prenons ce repas, nous sommes en train d'annoncer et de confesser la mort de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, frères et sœurs, et oui, nous les frères et sœurs, c'est-à-dire que nous confessons que nous aussi, nous sommes morts avec Christ. Et Paul, dans ses lettres, va faire souvent répéter, faites mourir dans votre corps ce qui n'est pas spirituel, ce qui est charnel, etc. C'est-à-dire qu'il faut permettre à la mort de Christ d'accomplir pleinement son œuvre dans notre vie. C'est important. Nous venons de lire, lorsque le Fils est élevé, de même que le serpent, Moïse a élevé le serpent d'airain, de même lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Comprenons, frères et sœurs, que quand la mort de Christ est une réalité pratique, profonde dans notre vie, il n'y a pas de problème pour que les âmes soient attirées dans la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit simplement une confession, mais il faut que ce soit une réalité profonde, pratique dans notre vie. Et que toutes les fois où nous laisserons pénétrer la résistance, le péché dans notre vie, nous sommes en train de contribuer à empêcher des âmes de venir. Nous devenons un obstacle à l'action de Dieu. Et qu'il est bon, il est important pour nous chrétiens, enfants de Dieu, engagés avec Dieu, eh bien, que la vie de Christ, la mort de Christ soit élevée dans notre vie, soit une réalité dans notre vie. Frères et sœurs, le jour où nous avons confessé par les eaux du baptême le nom de Jésus, notre nom a été inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est vrai. Mais, dans la réalité, frères et sœurs, nous continuons de lutter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, voilà. Donc, devant les luttes que nous pouvons avoir, frères et sœurs, il faut travailler, chercher, confesser, de manière à ce que la mort de Christ soit pleinement entière, une victoire dans notre vie. C'est une œuvre de toute notre vie. Nous ne sommes pas élevés à la perfection le jour où nous sommes engagés dans les eaux du baptême, même si il est vrai que lorsque Dieu nous regarde, il nous voit parfaits au travers du sacrifice de Christ. Luc chapitre 9, et on va terminer par là. Luc chapitre 9, et le verset 23. Il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, ou si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire, se charger chaque jour de sa croix? Lorsque Christ s'est chargé de la croix, il va vers la mort. Ça veut dire que nous devons aller vers la mort à nous-mêmes, si nous voulons que la vie de Dieu soit manifestée dans notre vie. S'il n'y a pas eu la mort de Christ, il n'y aurait pas de résurrection. Il ne peut y avoir de vie nouvelle s'il n'y a pas eu de mort. Si vous avez un beau grain de maïs, mais s'il n'est pas mis en terre et qu'il ne meurt et disparaisse, vous n'aurez pas de maïs, vous n'aurez qu'un beau grain de maïs. C'est un principe biblique qui nous montre l'importance que la mort de Christ soit manifestée pleinement en nous. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais il faut que cette œuvre se poursuive dans notre vie. Cela ne remet pas en question le fait d'être sauvé, d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, mais cela, eh bien, permet à ce que cette parole que le Seigneur dit, il attirera tous les hommes à lui lorsqu'il est élevé. Frères et sœurs, c'est la foi qui nous donne d'être sauvés, mais c'est la foi aussi qui nous permet de vivre d'une manière pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas une philosophie, la vie de Dieu, c'est une vie pratique. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Merci pour la grâce que tu nous permets cet après-midi à nouveau d'être réunis autour de ta parole. Je crois, Seigneur, que toutes les fois que nous nous réunissons, parce que ta parole le dit, tu es là présent au milieu de nous. Et ta parole nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais toi tu regardes au cœur. Seigneur, je crois que tu es celui qui sonde les cœurs et qui connaît les pensées des cœurs et qui connaît nos réalités à chacun. Rien n'est caché devant toi. Et lorsque, au travers de ta parole, tu nous rappelles certaines vérités, c'est que cela est pour nous important, non seulement d'entendre, mais que cela soit une pratique, devienne pratique dans notre vie. Ô Dieu, nous ne pouvons que dire « Seigneur, secours-nous s'il te plaît, afin que la victoire que tu as remportée à la croix soit une pleine réalité dans notre vie. » Si cela est dur et difficile pour nous, tu as fait la promesse, Seigneur, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et que, Seigneur, nous pouvons puiser nos forces dans la grâce manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de bénir cet après-midi le cœur de celui ou de celle qui n'a pas encore fait ce pas de la réconciliation avec toi, afin que dès maintenant, le venin de la mort du péché soit stoppé et que la vie se mette en place, cette vie nouvelle que toi seul tu peux accomplir, Seigneur. Tu sais également, Seigneur, si parmi tes enfants il y en a qui sont à nouveau repris dans des penchants, dans des travers. Je crois, Seigneur, parce que ta parole nous dit que tu n'es pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Et que cet après-midi, ce que tu veux avant tout, c'est libérer, sauver, guérir. Je crois également, Seigneur, que à la mort de la croix, tu es celui qui a porté dans tes meurtrissures nos maladies, nos infirmités. Et que, Seigneur, tu peux, parce que tout est possible à toi, encore cet après-midi, guérir, relever, consoler.